La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Allons jaser économie avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour Sylvain.
Bonjour Marc-André.
Sylvain, c'est la nouvelle là, qui fait réagir ce matin là, dans les pages là, du Journal de Montréal, Journal de Québec, là, sur le fait que les Québécoises et les Québécois qui parlent anglais gagnent davantage que les Québécois et les Québécoises qui parlent seulement français. Pour toi, là, qui suis la sphère économique depuis longtemps, est-ce que c'est une surprise pour toi?
Ben malheureusement, non. Donc, on parle des gens qui travaillent en français ou des gens qui travaillent en anglais et des gens qui travaillent dans les deux langues. Là, j'ai les chiffres. Ceux qui travaillent seulement en français vont gagner en moyenne 38 000 $ par année. Ceux qui travaillent seulement en anglais vont gagner 46 000 $ Donc, c'est 20 % de plus que ceux qui ne travaillent qu'en français. Donc, c'est une différence quand même importante. Mm-hmm. Et ben pourquoi je suis pas surpris? Mais il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces chiffres-là. Historiquement, on sait que la communauté anglophone était plus riche que la communauté francophone. Il y avait des questions d'éducation et tout ça. Et je pense qu'à ce jour, ça, malheureusement, ça se perpétue encore. Il y a un spécialiste à qui ma collègue a parlé qui soulignait, par exemple, qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui au Québec qui sont détenues par des anglophones. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que ça va être l'anglais qui va être utilisé. Bon, les employés veulent pas déplaire au patron, au propriétaire et tout ça, ou il y a une majorité tout simplement d'employés anglophones et tout ça qui travaillent. Donc, l'anglais va s'imposer comme langue de travail. Il y a des exceptions, évidemment, comme on connaît tous la maison Simons, les magasins. Là, je pense que ça se passe beaucoup en français, même si c'est un propriétaire anglophone. Mais il demeure que cette réalité-là du fait que les anglophones sont encore plus présents dans le monde de l'économie, des affaires et tout ça, je pense que ça a un certain impact. Il y a une autre raison aussi, c'est que les entreprises qui vont exporter le plus, qui vont être plus présentes sur les marchés internationaux, ça va être des entreprises souvent anglophones, pas toujours, mais souvent. On voit de plus en plus d'entreprises francophones qui exportent, évidemment, mais il y en a encore un noyau important de ces entreprises-là qui exportent et qui sont des entreprises anglophones. Donc, c'est un autre facteur. Donc, tout ça s'explique. Ça reste quand même choquant, moi, je trouve, parce que c'est quand même un écart de 20 % de ceux qui travaillent en français et ceux qui travaillent en anglais. Et dans le fond, ça dit, même au Québec, même dans une province qui est officiellement francophone, quand tu travailles en anglais, quand tu parles anglais, tu as un avantage, finalement, sur quelqu'un qui travaille dans une entreprise où tout se passe en français. Alors, c'est des chiffres ça, qui nous viennent d'une étude en passant de l'Office québécois de la langue française, des données qui datent de 2016, du recensement de 2016, mais donc c'est une nouvelle analyse qui vient d'être faite. Mm-hmm. Alors, c'est quand même assez intéressant le reportage de ma collègue Hélène Schaff là-dessus.
Mais est-ce que tu penses, Sylvain, que c'est pas un peu normal qu'une fois que, tu sais, moi je vois ça comme un peu mettre des outils dans un pack-sac, là, tu sais, je veux dire, la personne qui est bon sur l'informatique, qui est capable de faire du montage audiovisuel, la personne qui est capable de jouer de la musique, la personne qui est capable d'être un bon rédacteur de texte, ben plus t'ajoutes, tu sais, des cordes dans ton arc, ben à la fin, c'est normal que les employeurs te recherchent. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un problème systématique au niveau de la langue française? Puis là, faut faire attention que le Québec devienne pas une Louisiane, comme M. Legault l'avait dit en congrès de la CAQ en mai dernier du côté de Drummondville, ou c'est plus le fait que ben c'est normal que si tu parles anglais, ben que tu aies peut-être une ouverture sur le monde ou que les employeurs recherchent une candidature comme la tienne?
Ouais, ben c'est un bon point. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ceux qui travaillent dans les deux langues, donc des postes sont prédits bilingues, ces gens-là gagnent 51 000 $ en moyenne. Donc c'est plus que ceux qui ne travaillent qu'en anglais ou ceux qui ne travaillent qu'en français. On parle de moyenne, évidemment. Donc le bilinguisme, c'est payant. Ça, tous nos parents nous l'ont toujours dit. Moi, mes parents arrêtaient pas de me dire ça. Ils voulaient que j'apprenne l'anglais parce qu'ils savaient ça d'instinct, on pourrait dire. Donc ça aussi, ça se comprend parce que si tu as un poste bilingue, ben c'est probablement parce que tu fais affaire avec des gens à l'extérieur du Québec. Toi, tu as probablement un poste de plus grande importance si tu dois parler anglais et tout ça. Donc, je pense qu'il faut quand même... on est dans une société mondialisée, c'est probablement la même chose en France, au Royaume-Uni, peut-être pas au Royaume-Uni, mais tu sais, en Europe, dans les autres pays, en Asie et tout ça. Donc, je pense qu'il faut pas non plus s'indigner pour rien. Je pense que c'est plus l'aspect du fait que de parler en anglais, de travailler en anglais au Québec, c'est plus payant que de travailler en français. Ça, je pense que ça reste. Ceux qui ne parlent qu'une seule langue, là, je pense que c'est là que le bas blesse. Il y a aussi toute la question des technologies, je pense que tu le soulignais un peu. Toutes les nouvelles start-up, même des fois créées par des francophones, on va fonctionner beaucoup en anglais parce que, bon, encore là, la haute technologie, ça se passe en anglais. On fait pas trop l'effort de traduire les choses. Il suffit qu'il y ait un seul employé unilingue anglophone dans une salle, dans un groupe, et là, tout le monde n'a pas le choix de se mettre à parler anglais. Donc, ce phénomène-là aussi qui existe et tout ça. Je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut pas nécessairement s'alarmer. Il y a des spécialistes avec qui on a parlé qui nous disaient que c'est quand même un phénomène en augmentation. Moi, je pense qu'il faut quand même être vigilant parce qu'il y a quand même aussi des gens qui viennent ici, qui vivent ici plusieurs années. Ils ont plusieurs années pour apprendre le français. Ils le font pas. Ils imposent l'anglais, finalement, à leurs collègues qui sont des francophones. Moi, je pense que si ce phénomène-là se poursuit, s'accentue au fil des ans, à un moment donné, on va peut-être se retrouver puis on va se rendre compte que finalement, c'est beaucoup plus difficile qu'avant de parler en français, même à l'extérieur de Montréal. Donc, je pense qu'il faut rester très vigilant là-dessus.
Non, c'est certain, il faut rester vigilant, puis c'est certain que c'est un sujet qui va faire jaser encore beaucoup dans les prochaines semaines, surtout là, à l'aube d'une campagne électorale. Sylvain, avant de se laisser, tu voulais nous glisser là, quelques mots là sur les boutiques, là, l'imaginaire là, du côté de Québec, qui a quand même une croissance là inespérée, après que là, quand même les jeunes de la famille là, aient le tourné de dos à l'entreprise familiale là, il y a quelques années.
Oui. Ouais, ça c'est une histoire intéressante. Le fondateur de l'Imaginaire s'appelle Benoît Doyon. C'est des boutiques de jeux de société, de cartes, de collection et tout ça, de loisirs, on pourrait dire. Ils ont démarré donc à Québec. Et là, en 2014, le fondateur, après plusieurs années, il dit bon là, je suis en burn-out, je veux vendre, j'en peux plus. Et il a proposé à ses enfants de racheter. Ils ont dit non, on veut rien savoir de ça. Même si c'est nullement pas cher, on n'en veut pas. Et donc là, eux sont partis faire un peu leur truc de chacun de leur côté, voyager un peu à travers le monde et tout ça. Puis deux ans après, ils sont revenus face à papa. Puis là, ils ont dit, on a vu que le gazon était peut-être pas plus vert ailleurs. Puis ça nous intéresserait peut-être de travailler avec toi. Fait que là, ils se sont joints à l'entreprise. Et là, graduellement, ils sont devenus actionnaires de plus en plus. Et là, tu vois, aujourd'hui, ils ont plusieurs boutiques. Ils en ont à Sherbrooke, ils en ont à Lévis. Là, ils vont une à Saint-Bruno, à Trois-Rivières. Puis là, ils vont en ouvrir une au Carrefour Laval, qui est le Carrefour, le centre d'achat le plus réputé, le plus payant, si on veut, au Québec, le plus où il y a le plus de ventes au pied carré. Et donc, pour eux, c'est très, très prestigieux d'entrer là-bas. Et c'est difficile parce que le Carrefour Laval fait des choix sur le type de commerçant qui peut s'installer là-bas. Alors, moi, je trouve que c'est une histoire incroyable. Une entreprise qui aurait peut-être pu fermer, qui est passée un cheveu, finalement, de fermer ou d'être vendue. Puis là, finalement, les jeunes reprennent le truc. Ça montre des fois que l'entrepreneuriat ne tente pas du premier coup. Et là, après ça, on y prend goût à force de se mouiller, puis on embarque. Puis c'est une histoire incroyable, je trouve.
Effectivement, Sylvain, un gros merci. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Sylvain, on se retrouve demain.
À demain.
Bye-bye.